Salut, salut, bonsoir, c'est La Courte Échelle, bienvenue. C'est tous les dimanches de 19h à 20h. Là, on vous a préparé un petit enregistrement pour l'émission de ce soir. Donc, du coup, c'est malheureusement pas possible de nous appeler en direct, mais vous pouvez toujours nous écrire à l'adresse La Courte Échelle, Radio Galère, Friche de la Belle de Mai, 12 rue François Simon, 1303 Marseille. Je répète, La Courte Échelle à Radio Galère. Friche de la Belle de Mai, 12 rue François Simon, 1303 Marseille. Sinon, nous avons une adresse mail, c'est la-courte-échelle, @raisa.net. Donc, ça, c'est les contacts. Et voilà, c'est tout pour l'émission de ce soir. Bonne émission.
Salut. Eh bien, bonsoir. On va continuer ce soir avec notre cycle de discutes sur les mesures répressives de l'État autour des questions antiterroristes avec Joël qui est avec nous.
Salut, je suis à nouveau là.
Et on a parlé des années avant 2020, et Joël va nous faire un petit résumé de ce qui a déjà été dit dans les émissions de la Courte Échelle.
Oui, donc la première étape de notre cycle, on avait évoqué les années 2015-2016, donc celle des gros attentats et comment dire, des mesures immédiates qui ont été mises en place suite à ça, donc Hypercacher, attentat de Nice, Bataclan avant ça. Voilà. Et quelques lois déjà qui commençaient à être assez hardcore sur la question du ministère des tribunaux et des prisons, ministère de la justice. Ensuite, on avait continué la semaine dernière sur les années 2017 à 2019, avec notamment donc 2017 la campagne présidentielle. On avait évoqué un peu l'implication plus en plus forte des syndicats de keufs dans l'écriture des lois. Avec les permis de tuer de plus en plus faciles pour les keufs, mais aussi donc l'implication un peu inédite des syndicats de matons qui bloquent des prisons pour pourrir la vie des prisonniers, pour revendiquer en gros des mesures plus sécuritaires en prison et des équipements plus vénères pour tabasser plus fort les prisonniers. Et on avait également évoqué un peu sur le cycle de la semaine dernière, 2017-2019, un peu l'attaque contre les étrangers sous prétexte d'antiterrorisme, avec cette fameuse notion très floue administrative de menace à l'ordre public, par exemple. Voilà. Il y avait on avait discuté plein d'autres trucs, mais c'est un peu ça les points saillants. Et aujourd'hui, on va commencer sur 2020-2021, donc les fameuses années un peu Covid.
Et oui, c'est ça, 2020, tout le monde pense au Covid, qui ferait un peu oublier la question antiterroriste. Mais ce qu'on va voir, c'est que il y a des dispositifs antiterroristes qui vont être utilisés pour faire face au Covid, justement.
Oui, parce que en fait, le Covid, il va apparaître un peu très rapidement, en quelques mois. Donc, en décembre 2019, on entendait parler pour la Chine, et on se retrouve en mars 2020 à avoir le confinement. En gros, en quelques semaines, le gouvernement va réagir très très vite et du coup va aussi un peu instiller ce climat de peur et d'urgence. Voilà. Et c'est ça qui est extrêmement important, c'est qu'en fait cette notion de, enfin, ce sentiment d'urgence permet de créer des situations de justice d'exception, d'état d'exception en fait, tout simplement. Et ça, c'est typiquement propre à l'antiterrorisme. Et on va le voir, ce qui va un peu se passer avec le Covid. Notamment, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que des dispositifs antiterroristes vont être pris pour, soi-disant, lutter contre le Covid. Et c'est notamment cette année-là, enfin, la question du Covid va être un point de bascule pour étendre des mesures qui, jusque-là, étaient surtout centrées sur l'antiterrorisme et un peu encadrées. Et ça va permettre de les élargir dans le reste de la société, de manière très large. Alors, ce n'est pas un phénomène qui est non plus nouveau. On ne va pas dire que le Covid change tout. Par exemple, un phénomène assez massif depuis 2015. C'est qu'il y a eu un enfermement de masse qui a progressé. C'est-à-dire que ce qui se passait sous Hollande, donc Hollande a été élu en 2012, le président Hollande, depuis l'élection d'Hollande jusqu'à l'attentat de 2015, il n'y a pas eu d'augmentation du nombre de prisonniers. Alors ça restait un nombre vraiment considérable, 66 000 personnes en prison au 1er janvier 2015. Et c'était globalement stable les années précédentes, les 2-3 années précédentes, lorsque Hollande était au pouvoir. Ce n'était pas le cas sous Sarkozy, il avait augmenté les prisonniers, mais voilà, le nombre de prisonniers. Mais... Donc c'est un chiffre haut, mais qui est relativement stable sous Hollande depuis 2012. Et ce qui se passe à partir de 2015, c'est qu'il va y avoir une explosion du nombre d'incarcérations de manière continue jusqu'à 2020. Voilà, il y a plus de 72 000 prisonniers début 2020, alors qu'on était à 66 000 au début 2015. Et donc c'est une hausse constante depuis les attentats de 2015. On voit bien que les attentats, ils permettent des mesures, comment dire, continues d'élargissement à le reste de la société, de trucs qui n'ont rien à voir avec le terrorisme. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que le Covid, quand même, a une spécificité en tant que telle, notamment parce qu'il, voilà, il crée ce climat de peur. Voilà, le premier truc que va dire Macron pour justifier toutes ces mesures, sur lesquelles je vais revenir juste après, c'est de dire « nous sommes en guerre ». Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce fameux discours que pas mal de gens ont regardé en direct. Macron, il avait dit, je ne sais plus, une dizaine de fois lors de son discours « nous sommes en guerre ». C'était le seul truc qu'il disait, en fait. « Nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre ». Non, en fait, quand tu luttes contre une épidémie, tu n'es pas en guerre. Mais en fait, prétendre que tu es en guerre, ça permet de mettre en place des mesures d'exception typiques de l'antiterrorisme. Quand il dit « nous sommes en guerre », c'est pas pour dire « il y a l'opération Barkhane au Mali », c'est pas pour dire « il y a l'opération Chamal en Syrie » ou « la France qui donne des armes pour tuer des gens au Yémen » ou ce genre de choses. Non, non, non. Là, ce dont on parle, c'est « nous sommes en guerre », c'est juste pour justifier des mesures sécuritaires en France. C'est tout. C'est ça que ça veut dire « nous sommes en guerre » dans son discours. Voilà. Et donc cette législation issue de l'antiterrorisme va être justifiée par cette peur, en fait, de l'épidémie. Et là, bah, vous sentez venir. On vous avait dit que l'état d'urgence, il avait soi-disant disparu. En fait, il y a plein de mesures qui avaient été reprises dans une loi, la loi SILT. Le Covid, il permet de rétablir l'état d'urgence. Voilà, bingo. L'état d'urgence qui avait avant été utilisé uniquement dans les contextes de guerre coloniale et de situations, disons, antiterroristes, puis après étendu aux révoltes en banlieue en 2005, puis après étendu après le Bataclan. Bataclan, donc pour des mesures anti-terro. Voilà, maintenant l'état d'urgence apparaît pour lutter contre une épidémie. C'est la fameuse création de l'état d'urgence sanitaire. C'est la loi du 23 mars 2020, donc au début du confinement. Et effectivement, cet état d'urgence sanitaire, il justifie notamment la décision du confinement. Le confinement est permis par l'état d'urgence sanitaire. Confinement dont tout le monde... a entendu parler à cette époque, avec aussi des restrictions de déplacement. Donc c'est pas uniquement le confinement chez soi, les déplacements en dehors de chez soi sont strictement limités. Les mesures de quarantaine également sont permises grâce à cette loi d'état d'urgence. Le contrôle des prix, parce que bon, au début, après ça a eu un peu moins lieu, mais au début tout le monde se jetait sur les pâtes et le PQ. D'ailleurs, petite remarque, moi c'est... Le réflexe d'aller sur le PQ comme réflexe de survie, je trouve ça pas très malin. Mais enfin bon, bref. Contrôle des prix permis par l'état d'urgence, par l'état quoi. Contrôle des prix par l'état. Aussi, interdiction de tous les rassemblements. Donc rassemblement, c'est juste quelques personnes, c'est un rassemblement. Interdit de se rejoindre collectivement. C'est marrant, ça fait penser à une petite mesure qui existe déjà en prison depuis tout le temps. En fait, c'est interdit de se rassembler en prison, c'est interdit de se... coordonnées collectivement en prison. Ben voilà, interdiction de se rassembler dehors et aussi dans les espaces privés pendant un état d'urgence sanitaire. Fermeture également de tous les établissements recevant du public, voilà, associations, bars, tout ça, même si leur survie économique dépend de ça ou en fait juste si on veut avoir une vie sociale et associative, ben non, c'est interdit. On considère que ce n'est pas central dans la vie des gens. Cet état d'urgence sanitaire, il permet aussi de donner une marge de manœuvre beaucoup plus grande, beaucoup plus souple pour les juges. Donc les juges, ils font un peu ce qu'ils veulent pendant un état d'urgence sanitaire. Toutes les détentions provisoires sont prolongées de 6 mois. Donc, tout simplement, voilà, c'est gratuit. Vous restez 6 mois de plus en maison d'arrêt. Les audiences judiciaires sont aussi permises par visioconférence. Donc ça avait déjà lieu en CRA, en fait, en centre de rétention pour administrative, donc les prisons pour sans-papiers, depuis quelques années avant en France. Mais voilà, ça commence à être étendu en prison, surtout avec le Covid. Là, pour le coup, ça va se multiplier par ça. Ce qui va se passer aussi, en dehors de cette loi, c'est qu'il y a d'autres mesures, d'autres législations liées au... Enfin, pour lutter contre le Covid, qui vont être inspirées un peu de mesures exceptionnelles typiques de l'antiterrorisme. Il y a notamment Conseil d'État qui va refuser de fermer les CRA. Donc ça, c'est une décision du 27 mars 2020, alors que les frontières sont fermées. C'est-à-dire que le Conseil d'État va juger que c'est utile de continuer à enfermer des gens parce qu'ils sont étrangers et qu'ils n'auraient pas les bons papiers, alors qu'ils sont inexpulsables de fait, puisque les frontières sont fermées. Les préfectures justifient ça par la fameuse donc menace à l'ordre public, ça revient, notamment pour la justification de cette mesure, la menace à l'ordre public supposée notamment de tous les étrangers qui sortent de prison. Et c'est ainsi que pendant le Covid, les CRA vont certes se vider en partie, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens qui vont être libérés, et par contre ils vont systématiquement regrouper et garder enfermés les étrangers qui sortent de prison. Et du coup, ils sortent pas de prison puisqu'ils sont mis dans une autre prison. Voilà. Et c'est ça qui va se passer pendant le Covid, c'est qu'en fait, elles vont concentrer beaucoup, beaucoup, beaucoup de sortants de prison. Ce qui, assez logiquement, va entraîner en fait des révoltes dans les CRA assez vite, mais aussi dans les prisons, en fait, parce qu'il y a des mesures, les fameuses mesures d'état d'urgence en prison, c'est de confiner encore plus, d'isoler encore plus les gens isolés, c'est-à-dire leur supprimer leur parloir, puisqu'il n'y aura plus de visites possibles, de plus avoir de sortie, plus d'activité, etc. Voilà. C'était l'enfer, le Covid en prison. Et donc il y a de nombreuses révoltes collectives dans des dizaines et des dizaines de prisons en France. Donc pour répondre à ça, Nicole Belloubet, la ministre des tribunaux et des prisons, va promettre des libérations aux gens. Et effectivement, le nombre de prisonniers va un petit peu baisser. Il y aura 5000 libérations environ, 5 à 10 000. Mais en fait, ce n'est pas vraiment des libérations. C'est juste que les gens ne sont pas jugés, puisque les tribunaux ils sont moins en activité, et que les gens qui sont en fin de peine continuent à sortir. Et que bah, les étrangers qui sortent de prison, ils les foutent en CRA. C'est ça qu'ils ont fait. Et du coup, en termes de manipulation de chiffres, à l'époque, les gens prétendent, Nicole Belloubet prétend qu'il y a eu plein de libérations. Aujourd'hui, le ministre de la Justice, Darmanin, dit pour contrer l'extrême droite qui dit « Vous allez libérer des prisonniers, c'est pas bien à l'époque », Darmanin dit « Non, 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 on n'a pas libéré de prisonniers, on a juste pas fait de procès, enfin pas beaucoup, il y en avait quand même, mais on a fait moins de procès, donc il y avait moins d'incarcération. » Et donc en fait, il n'y a pas eu de libération, ou très peu. Voilà, et donc ces mesures d'urgence, il faut quand même de se dire que c'est assez ouf parce que ça a duré sur 2 ans. Il va y avoir un confinement, donc celui de mars à mai 2020, le premier, le vénère et que tout le monde voit. Après, il y a eu quand même un couvre-feu national qui a été mis en place en octobre 2020. Couvre-feu, c'est aussi une mesure typiquement de l'antiterrorisme ou de l'état de guerre. Pas juste pour lutter contre un virus. Il y a eu un deuxième confinement après ça, qui va durer d'octobre à décembre 2020. Il y aura ensuite un deuxième couvre-feu qui va durer quand même 6 mois. Un couvre-feu de 6 mois en 2021. Et un troisième confinement en 2021. Voilà. Tout ça, ça va prendre fin à l'été 2021. Mais donc pendant un an presque et demi, voilà, il va y avoir 3 confinements, 2 couvre-feux, dont un qui dure 6 mois. Enfin, on est dans des dingueries pareilles. Voilà un peu pour les mesures, disons, issues clairement de la législation antiterroriste. Hein, l'état d'urgence, il ne vient pas de nulle part. Si en 2020, on décide qu'il y a un état d'urgence qu'il faut créer, c'est parce que en fait, de 2015 à 2017, il y en avait un, et qu'après, il a été instauré dans le droit. Voilà pour, disons, les mesures Covid de 2020.
Et pour 2020, vous voulez aussi parlé de Darmanin, du coup ministre de l'Intérieur.
À l'époque,
ouais. À l'époque, ouais. Dans un contexte de manif contre les violences policières et de grosses révoltes en CRA, le même été, Darmanin a dit à ce moment, en juillet 2020, je cite, « Nous assistons à une crise de l'autorité. Il faut stopper l'ensauvagement d'une certaine partie de la société et réaffirmer l'autorité de l'État. Ne rien laisser passer. »
Donc cette phrase, notamment avec ce fameux terme de l'ensauvagement, c'est extrêmement grave hein, de la part d'un ministre qui est responsable au gouvernement de en fait déshumaniser de manière complètement assumée et publique une certaine partie de la population. Donc on va mettre à l'écart, en fait, poser une étiquette sur les gens. Et ça, c'est le même phénomène que en fait, l'étiquetage terroriste. On va désigner des gens comme des monstres. Et à partir du moment où ils sont désignés comme des monstres, ça permet de justifier toutes des mesures, un tas de mesures répressives qui après vont être étendues à d'autres gens. Et là, dans la tête de Darmanin, en fait, c'est vraiment une logique coloniale, en fait, quasi raciste de manière assumée, quoi. En fait, il y a une certaine partie de la population, sous-entendu les personnes des quartiers, il faut s'attaquer à eux, les étrangers, il faut s'attaquer à eux, etc. Donc ce processus de déshumanisation il devient tellement fort par l'antiterrorisme depuis 2015 que il permet en fait ce genre de discours et donc de pratique, on va le voir aussi dans les années qui suivent, clairement d'extrême droite, là pour le coup on peut pas nier le contraire, ça permet ce genre de discours en 2020 quoi, après en fait tout un tas de mesures et de climat de peur créé sur le prétexte terroriste, et ça c'est une logique à la fois coloniale autant, ou martial, c'est-à-dire de militaire, que antiterroriste. C'est les mêmes genres de logiques qui créent la peur en désignant des boucs émissaires et qui permettent de déplacer en fait, le regard sur des gens qui sont déjà sans pouvoir et indéfendables. Et donc voilà, ça va être les prisonniers, les délinquants, les étrangers, les musulmans, tout ce que vous voulez. C'est toujours ces mêmes personnes-là qui vont prendre cher pour ne pas montrer en fait le principal problème que par exemple en fait on est une situation d'inflation vénère notamment 2020, que les gens sont pauvres et qu'ils galèrent et que en fait c'est la crise économique depuis au moins 2007 si ce n'est avant quoi. Il y a des millions de gens au chômage, enfin bref, vous voyez le truc.
Et toujours sur 2020, on voulait revenir sur le mois d'octobre où Samuel Paty, prof d'histoire, a été décapité. On voulait parler des mesures qui ont été prises à la suite de ça et la réutilisation très pratique du prétexte de la lutte antiterroriste.
Ouais, il y a eu un peu deux moments après cet attentat. Il y a eu le premier moment où en fait ils ont pris des mesures spécifiquement liées à cet événement. Et après, en fait, ça a réutilisé l'argument antiterroriste qui avait été un peu oublié avec le Covid, disons la première moitié de l'année 2020. Et qui va être réutilisé à toutes les sauces. Tout d'un coup, en fait, finalement, on le réutilise pour n'importe quoi. Donc le premier temps, ça va être vraiment sur suite à cet attentat. Il va y avoir des minutes de silence imposées dans toutes les écoles parce que c'est un prof qui est tué. C'est voilà, c'est très grave et tout ça. Et donc, bizarrement, c'est moins grave quand c'est d'autres gens, mais bon, quand l'État il choisit un peu les gens qui meurent. Et donc, il va y avoir des apologies de terrorisme qui vont se multiplier contre des enfants. Je dis bien des enfants, puisque c'est des minutes de silence qui sont imposées dans des écoles, dans des collèges et aussi des lycées. Et donc, il y a des apologies de terrorisme qui vont pleuvoir, mais vraiment pleuvoir à l'appel dans les jours qui suivent cet événement. Et on arrive, par exemple, à ce qu'il y ait un minot de La Ciotat, là, à côté de Marseille. Il avait 10 ans, qui se retrouve... en garde à vue pour une instruction d'apologie du terrorisme. Il a 10 ans. Il est en école primaire. Je sais pas si... Bon, moi, je trouve ça vraiment aberrant. Et même chose pour un autre minot de Marseille qui avait aussi 10 ans. Bah, même chose, voilà. Apologie du terrorisme à 10 ans. Alors, vous imaginez comment c'est pire pour les ados qui sont plus âgés. Ceux qui ont un peu plus de... Bah, ceux qui sont, par exemple... qui ont la majorité pénale, c'est-à-dire 13 ans. Voilà. La majorité, c'est pas pareil pour tout le monde. T'es responsable à 13 ans pour aller en prison, mais par contre, pour avoir des droits, c'est que 18 ans. Bref. Autre mesure qui va suivre tout de suite l'attentat, c'est la multiplication des caméras de surveillance, de vidéosurveillance dans les lycées et même les collèges, voire des écoles, sous prétexte de lutte antiterroriste, hein, toujours. Donc là, on est toujours sur à nouveau la réutilisation de cet argument. Et là, on peut décerner la palme de l'école la plus zélée dans ce domaine. La ville la plus zélée, c'est Sisteron, donc au nord-est de Marseille. Sisteron, dès novembre 2020, ils ont déployé des caméras dans les écoles de Sisteron. Et après, le reste va suivre, hein, les autres écoles, collèges, lycées, dans toutes les autres villes. Petit à petit, ça va suivre les années suivantes. Voilà. Et ce prétexte de la lutte antiterroriste au début, donc on voit, il se centre sur les écoles et les jeunes. Et petit à petit, il va être utilisé à toutes les sauces pour dire on est dans un climat antiterroriste, donc il faut faire des mesures sécuritaires. Et alors, un de ces arguments complètement absurdes qui n'a rien à voir que le terrorisme, c'est... Il y a pas mal de gens qui écoutent la courte échelle qui étaient au courant parce qu'en novembre 2020, il y a une fouille des Héris, une fouille ministérielle qui est organisée dans le quartier femmes des Baumettes le 4 novembre 2020 sous prétexte d'antiterrorisme, de lutte antiterroriste. On sait comment ça se passe, une fouille ministérielle des Héris, c'est surtout pour détruire tout le mobilier et les affaires perso des prisonnières, et aussi pour tabasser les prisonnières elles-mêmes. Et du coup, suite à ça, ça va être le début d'une lutte collective des prisonnières au Baumettes, de novembre à au moins janvier, donc novembre 2020 à janvier 2021, une lutte collective des prisonnières contre justement les violences des ERIS, mais pas que des ERIS, aussi des ELSP, enfin c'était les ELAC à l'époque, les violences des matons et notamment leur sexisme et notamment les fouilles à nu systématiques y compris par des matons hommes sur les prisonnières, etc. Donc un gros mouvement de révolte collective assez fort. Un autre exemple de ce prétexte de lutte antiterroriste qui va être réutilisé à toutes les sauces, c'est les dissolutions d'associations, donc qui sont de plus en plus facilitées par les lois qu'on avait vues les années précédentes. Maintenant, il suffit de dire que telle association est un soutien au terrorisme pour la supprimer, alors qu'en fait, c'est juste une dissolution islamophobe de la part de l'État. En gros, il suffit de dire que l'association fait de l'incitation à la haine au terrorisme pour la dissoudre. Donc, il y a notamment le collectif contre l'islamophobie en France, le CCIF, qui va être dissous en 2020. Et ça ouvre un peu tout un cycle de dissolution d'associations où en fait il suffit de prétendre qu'ils sont dangereux sur le plan terroriste pour les dissoudre, alors qu'en réalité c'est juste des oppositions à la politique de l'État, quoi. Là en l'occurrence c'est un collectif contre l'islamophobie. Un autre exemple encore du prétexte de lutte antiterroriste, ça va être de saisir des moyens antiterroristes d'enquête, le parquet national antiterroriste, et d'inculper des gens pour des mesures antiterroristes, par exemple association de malfaiteurs terroristes, alors qu'ils n'ont rien à voir avec ce genre de truc. Donc il y a les fameuses arrestations du 8 décembre 2020. Il y a 9 personnes, puis 7 qui vont être effectivement inculpées. Donc 7 personnes inculpées pour association de malfaiteurs antiterroristes, de personnes qualifiées à l'ultra-gauche par la préfecture. Et c'est nouveau un peu pour la gauche, en tout cas depuis des décennies. Ces gens n'ont rien fait, ce sont juste des intentions supposées, et ils prennent juste un film que tu regardes, un discours que tu dis quand t'es bourré parce que t'es sur écoute depuis des années, ou qu'est-ce qu'ils ont repris encore comme truc absurde, des livres que tu lis pour dire que tu comptes commettre des attentats contre des keufs. Voilà, on reviendra sur la décision de justice qui va suivre cette arrestation. Ce sera plus tard. Voilà pour 2020. C'est un gros morceau, 2020, à cause du Covid notamment.
Et on fait maintenant une petite pause musicale avec le son « Para que aprendas » de Roberto Torres, un musicien cubain, un musicien de salsa. Ce titre, la traduction, c'est « Pour que tu apprennes ». Et du coup, c'est une musique de salsa qui parle de tôle. Et les paroles de cette chanson, c'est un peu comme la lettre d'un prisonnier à sa mère, où il parle d'une terrible douleur dans cette prison qu'il maudit, et que peut-être elle seule pourrait comprendre sa douleur. C'est pour ceux qui n'ont jamais connu cette expérience. Et ça part pour cette pause musicale.
Oh,
du coup sur l'année 2021 et ça commence avec le retour en force des manifs de CAF. Du coup, ils font des manifs à nouveau, c'est le retour dans la rue et il y a une loi qui va être... Ok. Juste, ils sont de retour dans la rue pour l'instant.
Ouais, et ils vont réussir à rédiger une loi, mais je reviendrai dessus après. Déjà, il faut revenir quand même sur ce truc. Ils reviennent dans la rue, les keufs. Donc, des keufs qui vont dans la rue, c'est pas n'importe quoi. Ils sont en uniforme, ils ont des armes. Et en fait, les gens qui protègent la manifestation, bah, ce sont eux-mêmes, puisqu'ils sont keufs. Enfin, c'est compliqué de contrer, par exemple, une manifestation de keufs. Il faut voir que, quand même, en 2021. Au début de l'année 2021, il y a presque un demi-million de forces de sécurité intérieure en France. Quand je dis forces de sécurité... Alors, 450 000, voilà, j'exagère un peu. Quand je dis forces de sécurité intérieure, c'est en gros les keufs, que ce soit la MUMU ou la Nationale, les gendarmes, et aussi les forces de sécurité privées qui ont le port d'armes depuis la loi de Hollande, là. Donc ça ne compte pas l'armée. Je ne compte même pas l'armée, alors qu'en vrai, on pourrait compter... Enfin, l'armée. Les gendarmes sont l'armée, mais le reste de l'armée ne sont pas comptés dans ce chiffre-là. Juste pour les forces de sécurité intérieure en France, voilà, on a un demi-million presque de personnes armées dans la rue. Ce qui fait un habitant sur 150. C'est un ratio particulièrement élevé. C'était seulement un habitant, enfin seulement, c'était déjà beaucoup, hein, mais un habitant sur 238 en 2018. C'est-à-dire que même pas 3 ans, on est arrivé à une personne sur 150 plutôt qu'une personne sur 238. Une personne sur 150, pour donner une comparaison à l'échelle européenne, eh ben, c'est le chiffre le plus élevé, tout simplement. Il n'y a pas d'équivalent en Europe plus élevé que ce chiffre-là. La France a le ratio le plus élevé de force intérieure par habitant d'Europe. En tout cas en 2021, je n'ai pas vérifié après. Mais... Et donc ces manifs. Évidemment, forcément, ils peuvent manifester facilement s'ils sont nombreux. En mai, il y a un policier qui meurt sur un point de deal parce qu'il était en intervention en civil. Et bref, peu importe, c'est un des cas rares où un keuf meurt. Mais voilà, et du coup, ils vont faire des manifestations, ces keufs. Il y a des milliers de keufs qui vont faire des manifestations. Ils sont armés en uniforme. Et ils vont manifester contre une nouvelle notion, et c'est pour ça qu'il faut revenir dessus, le laxisme judiciaire. Alors, ça fait bien rire pour les gens qui écoutent la courte échelle, parce que prétendre qu'un juge est laxiste, surtout depuis toutes ces décennies où les peines s'alourdissent et les gens restent de plus en plus longtemps en taule, et où, bah, on l'a vu, le nombre de prisonniers n'arrête pas d'augmenter, ça fait un peu rire de prétendre que la justice est laxiste, mais c'est une notion qui revient à ce moment-là, de la part donc, des syndicats d'extrême droite, notamment le syndicat Alliance, syndicat d'extrême droite, de keuf. C'est là d'où ça vient, cette notion. Aujourd'hui, elle commence à être étendue, notamment chez le RN et la droite soi-disant républicaine. Donc voilà, première nouvelle, les juges sont de gauche, soi-disant, d'après les keufs, en tout cas. Voilà, c'est une invention de l'extrême droite, notamment dans les années 70-80, et qui commence à revenir... dans l'aspect médiatique et politique à ce moment-là. Deuxième nouveauté avec ces manifs, c'est que le RN participe. Bon, ça, c'est pas nouveau. Le RN qui participe à des manifs de keufs, on n'est pas très étonné. C'est normal. Mais en fait, ce qui va être nouveau, c'est qu'il y a aussi les écolos. Yannick Jadot, le chef d'Europe Écologie Les Verts, va participer à cette manif. Aussi le PCF avec Fabien Roussel. Donc le Parti communiste participe à cette manif pro-keuf. Et surtout, et ça aussi c'est inédit, le ministre de l'Intérieur lui-même, c'est-à-dire que le chef des keufs, les keufs ne sont pas contents, ils râlent contre les mesures du gouvernement vis-à-vis des keufs, le chef des keufs du gouvernement participe à la manif. Voilà. Darmanin est dans la manif. Voilà. Tout le monde en fait participe à cette manif, ça, c'est assez fou. Le début de la gauche SOSDEM jusqu'à l'extrême droite, tout le monde participe. Y compris le gouvernement, c'est assez fou. Et donc, puisque tout le monde est d'accord, il va y avoir une loi qui va être passée, alors vraiment sous la dictée des keufs, sous la dictée des syndicats de keufs. C'est une loi qui va être rédigée très rapidement, en quelques... même pas quelques semaines, enfin si, allez. Entre mai et la mort du policier et la loi, il y a quelques jours à peine, et donc une loi sous la dictée du syndicat de Keuf va être proposée et votée. C'est la fameuse loi donc sécurité globale dont tu voulais parler. Je voulais juste revenir sur les manifs avant. Et donc, ce qui va se passer pour cette loi, c'est que les gens de gauche un peu installés, les journalistes notamment, mais aussi la gauche un peu parlementaire de députés type LFI, tout ça, ils vont se concentrer sur une critique très spécifique de cette loi. C'est que cette loi, elle proposait d'interdire le droit de filmer les keufs, ce qui effectivement, c'est grave d'interdire ça, et sur les surveillances de manifestations par drone, des manifestations qui seraient surveillées par les keufs. Et donc ils vont se concentrer sur ces deux aspects de la loi, pour la critiquer en oubliant tout le reste, ce qui fait que alors que comme c'est pas constitutionnel, ça va pas passer. Ces deux critiques là elles vont pas passer dans la loi. Le reste par contre, lui, il va passer sans aucun problème puisque ce sera critiqué par personne, notamment dans les médias. Donc le reste passe comme une lettre à la poste. Alors c'est quoi le reste de cette loi? Première chose, les keufs et les matons vont commencer à porter des caméras piétons, activables quand ça les arrange, évidemment. Hein. Ils les activent quand ils veulent que ça incrimine les gens. Et bizarrement, quand ils tuent quelqu'un de manière suspecte, la caméra, elle marchait pas. Ou elle n'était pas activée, ils ont oublié de le faire. Voilà. Donc ça leur fait en fait des preuves à charge en plus contre les gens. Pour les keufs, mais aussi les matons. Et ça, c'est quand même particulièrement hardcore. Quand on sait qu'on ne peut absolument pas filmer les violences de matons en prison, puisqu'on n'est pas censé avoir de téléphone qui filme. Autre chose que crée cette loi, c'est la police municipale à Paris. Elle n'existait toujours pas depuis tout ce temps. Alors, ça n'empêchait pas la nationale d'être en nombre. Hein. La Brave M, la BAC et compagnie. La municipale à Paris va être créée par cette loi. D'ailleurs, en parlant de municipale, la municipale, elle obtient partout en France, pas que pour à Paris, elle obtient des pouvoirs de police judiciaire, notamment d'enquête, qu'elle n'avait pas auparavant. Et elle obtient notamment, du coup, de ce fait, l'accès aux caméras de vidéosurveillance des villes et même ailleurs. Et donc, la municipale a accès à des moyens d'enquête assez vénères à partir de là. La surveillance par drone, alors elle n'est pas possible dans les manifestations, mais par contre elle est possible en dehors. Donc elle est possible en général, sauf en manif, autorisée par la préfecture. C'est-à-dire que si une manif n'est pas autorisée par la préfecture, les drones finalement en fait aussi. Et puis en dehors des manifs, les drones aussi vont être possibles pour les keufs. Donc en fait cette loi autorise les drones pour les keufs, plutôt que l'inverse. C'est pas du tout une victoire de la gauche ou je sais pas quoi. Cette loi permet aussi les palpations pour les forces de sécurité privées. Par exemple, la RTM, si vous prenez le métro à Marseille, vous pouvez être palpé par les gars de la RTM. Et ce que fait cette loi aussi, il y a d'autres mesures, mais je ne vais pas revenir sur toutes, mais elle va supprimer les réductions de peine. Alors on l'avait déjà vu, ils avaient supprimé les réductions de peine pour les gens condamnés pour terrorisme, mais là, ils le font aussi pour les violences contre les personnes dépositaires de l'autorité publique ou les menaces, même juste les menaces contre les personnes dépositaires de l'autorité publique. Quand on dit ça, c'est pas uniquement les keufs, du coup, c'est aussi les matons. Donc voilà, il suffit qu'il y ait un maton qui mette un CRI comme quoi vous l'aurez insulté ou je sais pas quoi, et hop, réduction de peine supprimée pour la condamnation que vous allez avoir sur cet outrage. Voilà pour cette loi. Donc elle est vraiment très très dure. La loi sécurité globale sous la dictée des keufs, voilà, tout simplement.
Du coup, on voit qu'avec cet exemple de loi de sécurité globale, 2021, c'est aussi l'année où le prétexte antiterroriste sert à faire passer plein de lois répressives. Et il y en a trois qui vont suivre. La deuxième, c'est... la loi relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement.
Ouais, donc c'est encore une loi, vu son nom, elle n'a même pas de surnom, comme la loi sécurité globale. Ça prouve que c'est une loi qui est encore passée en dehors des radars médiatiques et tout ça, elle passe comme une lettre à la poste tranquillement. Bon, bah, cette loi, elle permet quand même de contraindre les sortants de prison condamnés pour terrorisme dans le passé à des milliards de surveillance après leur peine de prison. C'est-à-dire que c'est pas pendant une conditionnelle où il y a des mesures un peu de surveillance assez fortes jusqu'à la fin de la peine. Là, on parle de après leur peine et potentiellement donc infini dans le temps. Donc ça peut être des astreintes de santé, des astreintes des obligations de suivi social, de suivi éducatif ou de suivi psy. Et tout ça, c'est potentiellement infini dans le temps et ça n'a rien à voir avec, je le répète, avec une condamnation pénale, notamment lors d'un cas d'aménagement de peine et une conditionnelle où il y a ce genre de mesure qui va être prise. Là, c'est vraiment à l'échelle de la préfecture. Voilà, c'est en dehors de... Si juste vous avez été condamné dans le passé, vous avez un casier pour les faits de terrorisme, vous pouvez avoir ce genre de mesure qui tombe sur vous à partir de cette loi. Cette loi aussi, elle permet de renforcer le renseignement. Notamment par la surveillance algorithmique ou aussi l'interception des communications par satellite. Ça, c'est quelque chose de totalement nouveau. Voilà, ils vont utiliser les satellites pour intercepter les communications. Voilà pour cette petite loi passée inaperçue, mais qui a quand même des conséquences. Cette fameuse loi, enfin fameuse, non, justement pas fameuse, elle n'est pas connue, relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement.
Du coup, il y a une troisième loi qui est la loi confortant le respect des principes de la République, pas plus pas moins, qui est aussi dite loi séparatisme.
Ouais, la fameuse loi de séparatisme. Là, on peut dire fameuse parce qu'elle a un peu été discutée, contrairement à la loi précédente dont on vient de parler. Elle permet de dissoudre les collectifs encore plus facilement. Donc on a commencé à évoquer ce cas-là des dissolutions de collectifs, notamment avec le CCIF. Voilà, cette loi le rend beaucoup plus simple à faire pour les préfectures. Enfin, du coup, par le ministère, mais c'est le ministre qui décide une dissolution, mais c'est les préfectures qui le demandent. C'est les keufs qui demandent ça. Notamment parce qu'il y a la notion de provocation à la violence supposée d'un collectif, d'une association, par exemple. Une notion assez floue, on le voit. Provoquer à la violence, ça peut être... alors, c'est contre des personnes, mais aussi des biens. Donc si vous êtes une association qui appelle potentiellement à une manif, potentiellement, ils pourraient dire « vas-y, on vous dissout ». Voilà. Parce que ça risque de créer des troubles, des violences contre les biens. Cette loi aussi, elle crée le contrat d'engagement républicain. Ta-ta-ta, voilà, ça en jette. Pour les associations, c'est-à-dire que les associations, si elles veulent une subvention publique, par exemple la radio que vous écoutez, la radio Galère, elle est obligée de signer ce contrat d'engagement républicain si elle veut recevoir des subventions publiques, ce qui est le cas, sinon Radio Galère n'existerait pas, parce que ça coûte des sous de diffuser la radio. Et donc pour avoir des subventions publiques, il faut signer ce contrat d'engagement républicain qui oblige à plein de contraintes sur la question soi-disant antiterroriste, mais qui paraît par extension, on le verra dans la pratique, par préfectorale, permet d'interdire l'appel à désobéissance civile, d'interdire de soutenir des manifestations pro-palestiniennes, etc. Et donc des collectifs vont être dissous pour ça, et notamment dissous, non pas par une dissolution stricto sensu de le ministère qui dit on vous supprime, mais juste en fait les gens n'ont plus la thune de faire ce qu'ils faisaient, parce que l'association perd ses subventions publiques. Du coup, on rappelle vraiment aux gens de réussir à, s'ils sont dans des collectifs, à réussir à être le plus indépendant possible de l'État sur le plan des subventions, si c'est possible. Après, on sait à quel point c'est dur, mais... Parce qu'en fait, ce contrat d'engagement républicain tient vraiment, menote vraiment les associations dans ce qu'elles peuvent faire. Cette loi séparatisme, elle a fait d'autres trucs. Alors, elle fait plein de trucs. Je vais pas tout vous lister parce qu'elle est vraiment compliquée... Pour beaucoup de gens, mais elle permet aussi de ficher tous les fonctionnaires par la préfecture. Tous les fonctionnaires, il y a un fichier spécifique qui va être fait, vérifier que tous les fonctionnaires, tous les nouveaux fonctionnaires qui rentrent dans l'État, on va vérifier qu'ils ne sont pas trop proches du terrorisme. Donc en fait, les CAF vont faire une enquête, mini-enquête sur vous à chaque fois. Voilà, ça c'est la loi séparatisme qui crée ça. Elle crée un nouveau délit aussi, le délit de mise en danger d'autrui en cas de divulgation publique d'informations sur la vie privée. C'est quoi ce charabia ? En gros, c'est remettre la potentielle interdiction de filmer les keufs. Et oui, parce qu'en fait, quand vous filmez un keuf et que vous mettez sur les réseaux une intervention musclée, voire quand le keuf a tué quelqu'un, et ben en fait, vous mettez en danger sa vie privée parce que vous divulguez publiquement des informations sur sa vie privée. Et ça, c'est passible de 5 ans de prison après la loi séparatisme. Donc en fait, ce qui avait sauté dans la loi sécurité globale revient par une petite porte. Alors, c'est pas assumé totalement que c'est interdit de filmer les keufs. Mais quand vous dites à un keuf, ouais, c'est autorisé de filmer, vous voyez que en fait, depuis 2021, c'est quand même ils sont quand même un peu plus sur deux quand ils commencent à vous tabasser parce que vous êtes en train de filmer. Parce que oui, effectivement, en fait, ils peuvent vous poursuivre potentiellement pour ça. Après, si vous le divulguez pas, vous pouvez pas être poursuivi. Mais bon, à quoi ça sert de filmer les keufs si c'est pas sur les réseaux, parce que c'est un peu le seul moyen de, disons, de rapport de force qu'il y a face aux violences des keufs, c'est de les filmer et de les rendre publics leur violence, en fait. Voilà. Donc en fait, c'est pour contrer ce truc-là que dans la loi il y a ce nouveau délit. C'est quand même 5 ans qu'on peut prendre pour ça. Voilà pour cette loi. Il y a plein d'autres mesures, mais qui sont un peu plus spécifiques. Je vais pas revenir dessus.
Et là, on va parler de la dernière mesure législative. C'est pas une loi en soi. Elle a été mise en place à l'automne 2021 et c'est le nouveau code pénal des mineurs, en fait.
Et oui, on avait vu un peu que les deux années précédentes, notamment avec l'apologie du terrorisme suite à la mort de Paty, les mineurs vont être sacrément encadrés et surveillés sous un prétexte antiterroriste. Et ben voilà, là on arrive un peu à l'aboutissement de ce processus de surveillance des mineurs et de criminalisation aussi des mineurs par un nouveau code pénal qui, en gros, pour résumer, parce que on va pas rentrer en détail non plus dans ce nouveau code pénal qui n'est pas non plus très précisément antiterroriste, il est plus pénal au sens beaucoup plus large du terme. Pour résumer, il va inverser une hiérarchie qui existait depuis en gros la Seconde Guerre mondiale, depuis 1945, qui était de soi-disant, je dis bien soi-disant parce que ça avait été quand même bien attaqué par la création de prisons pour mineurs et tout ça, mais soi-disant faire primer l'éducatif sur le répressif pour les mineurs. C'est ça le principe théorique qui devait avoir lieu dans l'État et du coup qui devait permettre une défense spécifique là-dessus de la part des avocats qui défendent les mineurs, etc. C'était de dire qu'en fait cette personne a besoin de mesures éducatives plus que de répressives, c'est-à-dire d'être incarcérée, pour dire les mots quoi. Et en fait ce que fait ce nouveau code pénal, c'est d'inverser la priorité, tout simplement. C'est-à-dire que le répressif va l'emporter sur l'éducatif. Ça va pas supprimer l'éducatif, on va toujours prétendre faire l'éducation et tout ça, on va toujours prétendre que les matons dans les CEF et les CER ce sont pas des matons mais des éducateurs, c'est leur nom. Mais voilà, de fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une inversion de la priorité. Alors, je dis pas que c'est nouveau et qu'on tombe de nulle part. Hein. La priorité n'était pas non plus si prioritaire que ça, de l'éducatif. Notamment quand l'éducatif, il permet des mesures coercitives, parce que l'école, c'est pas non plus si incroyable que ça. Notamment, conséquences concrètes, très précise pour donner un exemple de ce nouveau code pénal des mineurs, les CEF, les centres éducatifs fermés, donc les prisons pour mineurs, vont se multiplier après cette loi. Enfin, cette loi, c'est une mesure législative, c'est un nouveau code, donc c'est un ensemble de lois. Réorganisation des lois sur les mineurs. Voilà. Voilà pour toutes les mesures législatives de 2020, c'est, vous voyez, 2021, pardon, et vous voyez que 2021, c'est particulièrement riche de ce point de vue-là, riche en répression juridique, enfin législative.
Oui, et du coup, on vient de passer un temps pour parler de ces nouvelles lois et mesures législatives, mais aussi dans la pratique réelle. En parallèle, y a les forces de l'ordre qui rentrent en roue libre en 2021.
Ouais, on l'avait déjà un peu évoqué avec leur manif déjà pour demander en fait le droit de tuer et tout ça. Mais là, voilà, les forces de l'ordre, de manière générale, commencent un peu à faire sauter des digues, ou en fait des discours complètement inassumables quelques mois auparavant, si ce n'est années, si on prend avant 2015 en tout cas, ils ne pouvaient pas dire ces trucs-là. Bah là, ils commencent à avoir des discours ou des pratiques réelles d'extrême droite particulièrement violentes. Donc au niveau préfectoral, je peux vous donner un exemple. Il y a la charte de l'islam en France qui va être créée par les préfectures. Et en gros, toutes les mosquées en France ont l'obligation de signer cette charte. C'est-à-dire que toutes les mosquées de France, je dis bien toutes, aucune exception, sont encadrées par les préfectures. Voilà, tout simplement. Séparation de l'Église et de l'État, bon, ça dépend si vous êtes une Église catholique ou pas, quoi. Donc ça, c'est l'année, elle commence par ça. Elle commence par cette création des chartes de l'islam en France. Vous voyez un peu, ils créent toutes ces chartes d'engagement républicain, de respect de la République, voilà. C'est tous ces engagements où les associations, on l'a vu dans la loi séparatisme, doivent s'engager à être super chouettes. Et pareil pour les mosquées. Voilà. Les mosquées sont complètement encadrées par la préfecture. À l'échelle des matons, c'est la même chose. Ça rentre complètement en roue libre. Il y a par exemple à Valence, donc la prison au nord de Marseille, mais dans la DI de Lyon, à Valence, va être assumé le premier tir de LBD en prison. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y en a peut-être pas eu avant, en tout cas ça a été autorisé légalement, le LBD en prison, juste avant, par la DI de Lyon. Voilà, ça va être assumé pour la première fois lors d'un refus de remontée de promenade, hein, vraiment un truc un peu classique, pas incroyable. Faut se dire qu'un LBD, bon, déjà ça fait mal dans la rue, ça crève les yeux, ça nique des dents, ça, voilà, ça éborgne les gens et tout ça. Ça peut créer des traumas crâniens et tout ça. Bon, dans une coursive de prison, ça crée des dégâts quasiment létaux, en fait. Enfin, on n'est pas du tout au même niveau de... En fait, c'est des tirs tendus, forcément. Ça peut pas être un tir en cloche. Je vois pas comment c'est possible. Et puisqu'il y a des murs, il y a des plafonds. Et puis, bah, on est dans des espaces extrêmement petits. Des tirs de LBD en coursive, même en promenade, une promenade, c'est minuscule. Donc voilà, c'est forcément extrêmement dangereux. Bah, voilà, c'est nouveau, c'est 2021. Le parquet antiterroriste aussi, le parquet national antiterroriste, se lâche complètement en 2021. Et là, il commence à assumer, par exemple, de s'attaquer à la gauche, à l'extrême gauche, avec des arrestations complètement farfelues. Notamment, il y a une dizaine de Kurdes qui vont être arrêtés notamment surtout à Marseille et à Paris et Draguignan, je crois, parce qu'ils sont soupçonnés d'être proches du PKK, donc le parti indépendantiste kurde en Turquie, notamment. Enfin, surtout en Turquie, le PKK est surtout actif en Turquie. Et ça, c'est clairement pour faire plaisir au gouvernement d'extrême droite d'Erdogan, donc le président de la Turquie. Peut-être Premier ministre, je ne sais plus qui est... Bon, le chef d'État turc, Recep Tayyip Erdogan, il demande, en fait, c'est un truc diplomatique, mais voilà, le parquet national antiterroriste commence à se saisir de ça à ce moment-là. Ce que va faire le parquet national antiterroriste aussi, c'est de lancer des procès pour association de malfaiteurs terroristes. Des opposants au projet d'enfouissement nucléaire à Bure. Donc à Bure, en gros, c'est au milieu de la Meuse, un des départements les moins densément peuplés de France. La France, elle veut créer un endroit où ils vont mettre tous les déchets radioactifs de toutes nos centrales nucléaires qui, soi-disant, sont pas polluantes. Voilà, ils veulent les enfouir sous la terre, tout simplement. Cacher la merde, hein. Comme on met la poussière sous le tapis, mais avec des déchets radioactifs, c'est un peu plus compliqué. Et donc, il y a des gens qui s'opposent à ce projet-là. Et en fait, bah, tout simplement, le parquet antiterroriste va lancer une instruction d'association de malfaiteurs terroristes contre les opposants à ce projet. Alors, en fait, le parquet, il assume totalement que cette association de malfaiteurs terroristes allait tomber. La notion terroriste ne peut pas être prouvée à aucun moment. Mais il le sait très bien parce que lui, il s'en fiche complètement. Il veut juste les moyens antiterroristes d'enquête. Et ça, il l'assume totalement lors du procès qui a lieu en 2021. C'est-à-dire qu'on le voit pendant le procès qu'ils assumaient complètement en fait, que c'était juste pour surveiller tout le milieu anti-nucléaire en France, en fait. Avec des 1 million d'euros déployés de moyens d'enquête, c'est colossal. Notamment, bah, 85 000 interceptions de conversations téléphoniques. 85 000. On est sur des chiffres énormes. Il y a peu d'enquêtes antiterroristes qui vont à ce point-là. Et pourtant, c'est pour des gens qui s'opposent pacifiquement le fait d'enfouir des déchets radioactifs pour des millions d'années sous nos pieds. Et donc dans notre eau, dans notre dans plein de choses qu'on va récupérer. Par exemple, si on va récupérer plus tard des minerais, parce qu'on aime bien faire ça, ben, on va récupérer les déchets radioactifs avec. Pareil pour nos plantes, c'est pas génial. Enfin bref. Voilà, le militaire aussi commence à être en roue libre. Il y a par exemple une vingtaine de généraux dans le journal d'extrême droite, Valeurs Actuelles, mais vraiment quasi fasciste, hein, Valeurs Actuelles, qui vont écrire une tribune pour dire, pour appeler à la guerre civile. En gros, ils parlent de guerre civile pour mettre un terme au chaos croissant. Qui fait une guerre civile généralement? Bah, y a les militaires qui participent. Donc quand il y a des généraux de l'armée française qui publient, alors qu'ils n'ont pas le droit de le faire d'ailleurs, puisque leur métier l'interdit, les prises de parole publiques. Quand tu as des généraux qui appellent à la guerre civile, c'est un peu flippant quand même. Voilà. Par ailleurs, ça on n'en parle pas, il y a plein d'arrestations de néo-nazis cette année-là. Ça, les médias n'en parlent pas. Des néo-nazis qui voulaient tuer des juifs, des musulmans, ou qui voulaient s'attaquer au ministère de la Santé, parce qu'on est à l'époque un peu du pass vaccinal et tout ça. Voilà. Ça, par contre, médiatiquement, il ne se passe rien là-dessus. C'est vraiment la gauche sur laquelle il faut taper. Voir le terrorisme djihadiste quand on arrive un peu à prouver qu'il existe encore, mais en fait, il est devenu faible. Voilà. Voilà pour 2021.
Pour l'année 2021, elle va se terminer avec le 31 décembre. Et donc, par la fin de la guerre en Afghanistan, c'est les États-Unis qui décident d'arrêter la guerre. La France rentre, elle aussi. Et les talibans prennent le pouvoir. C'est la fin de 20 ans de guerre, justifiée par les attentats du World Trade Center en 2001, soi-disant pour lutter contre le terrorisme.
Oui, et tu parlais du 31 décembre précisément parce que la France sort de la guerre ce jour-là, quoi.
Oui.
Donc on finit là-dessus l'année 2021. Voilà, on va vous laisser tranquille pour l'instant. On vous a déjà bien martelé des étapes bien dégueulasses 2020-2021. Et du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière étape de notre cycle sur les 10 ans d'antiterrorisme d'État. Voilà, on avait fait un premier cycle, une première étape 2015-2016. La semaine dernière, on avait fait 2017-2019. Aujourd'hui, 2020-2021. Voilà. On va faire 2022 jusqu'à aujourd'hui, la semaine prochaine.
Alors, à la semaine prochaine.
À bientôt.
Force à vous. Et on va terminer cette émission avec Las Tumbas d'Ismael Rivera. Un artiste portoricain. Le titre de cette chanson, ça veut dire les tombes. Et les paroles racontent que dans cette prison qui le torture, lui et son cœur, et qu'il le rendra fou s'il reste là. Les paroles disent aussi, avec répétition, les tombes sont faites pour les morts, mais de morts, il n'y en a rien, il n'y a pas de mort. En référence à la tôle n'est pas avec des personnes qui sont mortes. Et ça part pour ce son de fin. À la semaine prochaine.
Recoge, mijo. Mira que vas para la calle. Dile a Pancho que me mande algo para la comisaria. María Títere, que breike.
De la tumba quiero irme, no sé cuándo pasará. Las tumbas son para los muertos y de muerto no tengo nada.
Cuando yo salte de esta prisión, monotonía, monotonía cruel. Cuando yo saldré, mira, yo saldré de esta prisión. Ya que mira, pero ya las tumbas son crucifixión, monotonía, monotonía, mira cruel dolor. Si sigo aquí, enloqueceré. Parece que estás bien acostumbradito, ¿ah? Dale para la calle. Te tenían bien.